Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince et à Washington. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contenaire.
Nous sommes sur le continent américain durant la dernière demi-heure d'RFI Midi. Nous irons aux côtés des Haïtiens de Springfield aux États-Unis qui vivent dans la crainte d'être expulsés. D'autant plus que le président Donald Trump a supprimé ou veut supprimer les statuts qui protègent les réfugiés. Nous parlerons aussi de la campagne électorale au Canada. Nous sommes à 5 jours des élections législatives anticipées. Et puis nous irons au Mexique pour parler d'un programme social qui soutient les agriculteurs les plus précaires et travaille aussi à la reforestation dans le pays. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, nous irons avec vous en Martinique. Grosse déception pour les usagers des navettes maritimes qui exigeaient l'instauration d'un service minimum entre les Trois-Îlets et Fort-de-France.
Leur requête a été en effet rejetée hier par le tribunal administratif, alors que le service est interrompu depuis plus d'un mois, presque un mois maintenant. Nous entendrons tout à l'heure l'avocate de l'association des usagers.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et tout de suite, le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La Commission européenne affiche sa fermeté contre les géants américains de la tech.
Quitte à déclencher de nouveau la colère de Donald Trump, l'exécutif européen a infligé de nouvelles sanctions financières à Apple et Meta pour des infractions à la concurrence. 700 millions d'euros au total. On est loin tout de même des amendes records déjà réclamées aux deux groupes californiens. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazet.
L'an dernier, Meta a proposé aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram un choix, consentir à ce que toutes leurs données soient utilisées à des fins commerciales ou alors payer pour ne pas avoir de publicité. Pas de choix intermédiaire, par exemple des publicités personnalisées qui utiliseraient moins de données personnelles. Pour la Commission, c'est une infraction à ce fameux règlement européen sur les marchés numériques. Elle inflige donc une amende de 200 millions à Meta, montant relativement faible en regard de la dernière amende, 1,2 milliard contre Meta en 2023. Mais il y a une relative indulgence, car c'est la première fois que ce règlement est appliqué. En outre, Meta a introduit des changements en 2025. De la même façon, la dernière amende infligée à Apple était de plus d'1,8 milliard l'an dernier. Cette fois, c'est 500 millions d'euros parce que l'infraction continue. Il s'agit de l'App Store de l'iPhone qui restreint l'accès pour les développeurs d'applications extérieures à Apple. La Commission choisit donc l'affrontement avec la Maison-Blanche, puisque Donald Trump et ses alliés de la Silicon Valley estiment que les règlements européens ont été conçus contre les États-Unis. Ils faisaient pression pour que les règlements sur les marchés numériques et les services numériques soient modifiés ou retirés. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Entre les États-Unis et la Chine, cette fois, la guerre commerciale est mise sur pause pour
le
moment.
Les marchés, oui, tout à fait, Anne. Les marchés soufflent un peu. Après l'Asie, les bourses européennes ont ouvert dans le vert. Énième épisode, Donald Trump a annoncé une baisse conséquente des droits de douane avec la Chine. Il reconnaît que les surtaxes à 145% qu'il avait lui-même imposées étaient très élevées. Pékin se dit ouvert aux discussions. Myriam Berber.
S'il faut se battre, nous irons jusqu'au bout. Mais les portes du dialogue restent grandes ouvertes, a déclaré aujourd'hui un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Des propos en réaction à la déclaration de Donald Trump qui a évoqué hier l'éventualité d'un accord équitable sur les droits de douane entre les deux pays. Un véritable rétropédalage pour le président américain. Il y a quelques jours, ces discussions étaient à l'arrêt. Le secrétaire au Trésor est pour beaucoup dans ce revirement. Lors d'un échange organisé par la Banque américaine, JP Morgan à Washington, Scott Bessent a estimé que la situation actuelle n'était pas tenable avec des tarifs douaniers de 145% imposés sur les produits chinois et ceux de 125% décidés en représailles par Pékin sur les marchandises en provenance des États-Unis. Pour le secrétaire au Trésor, ces surtaxes agissent comme un embargo commercial, d'autant plus que Pékin a appelé l'Union européenne et le Royaume-Uni à faire front commun face aux Américains.
Washington est aussi à la manœuvre, Karine, sur le dossier de la guerre en Ukraine.
Les États-Unis mettent la pression sur Moscou et Kiev pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Washington se dit prêt à stopper les négociations si elles ne progressent pas. Des échanges territoriaux seront nécessaires pour le vice-président J.D. Vance. Selon le Financial Times, Vladimir Poutine a proposé un deal aux Américains, geler la ligne de front, en échange notamment d'une reconnaissance de la souveraineté russe en Crimée. La péninsule est annexée depuis 2014 par Moscou. Paris rappelle que les Européens sont attachés à l'intégrité du territoire ukrainien.
Alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, Mahmoud Abbas prend la parole.
De Cisjordanie occupée, le président de l'autorité palestinienne en appelle au Hamas. Il demande au groupe islamiste à la tête de l'enclave palestinienne de libérer les otages israéliens. Le Hamas est accusé d'avoir fourni à l'État hébreu des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza avec le kidnapping de ses otages lors des attaques du 7 octobre. C'est notre peuple qui en paie le prix, pas Israël, dénonce Mahmoud Abbas.
Une longue file d'attente s'est formée place Saint-Pierre.
Depuis ce matin, des dizaines de milliers de fidèles affluent au Vatican pour se recueillir devant la dépouille du pape. Son corps est désormais exposé sous les ors de la basilique, mais il ne repose pas sur un catafalque. Le cercueil est posé à même le sol, une demande de sobriété qu'avait formulée le pape. Le conclave de succession ne devrait pas commencer avant le 6 mai, mais évidemment, les tractations ont déjà commencé. Parmi les favoris côté réformateur, le cardinal sud-coréen Lazariou, proche de François, son portrait avec de Séoul, Célio Fioretti.
Lazar Yu, 73 ans, cardinal sud-coréen, un nom qui pourrait devenir familier dans les prochaines semaines. Nommé cardinal en 2022 par le pape François, il était déjà très proche du souverain pontife qu'il avait accueilli en Corée du Sud en 2014. Lazar Yu partage les idées du pape François quant aux réformes de l'Église et a rapidement grimpé les échelons ecclésiastiques pour être aujourd'hui dans la haute administration du Vatican. Pour les croyants réunis à la cathédrale de Myeongdong à Séoul pour prier pour le pape François, le cardinal Yu pourrait être un digne successeur.
Le cardinal Yu vit vraiment dans l'esprit du pape François. Proche des pauvres, des faibles. Donc je pense qu'il est tout à fait qualifié.
Je ne le connais pas très bien, mais s'il devenait pape, oui, ça m'irait parfaitement. Ce serait un immense honneur pour la Corée qu'un de ses fils devienne pape.
Le cardinal Yu ne s'est pas exprimé sur cette hypothèse, mais a affirmé tout l'intérêt que portait le pape François à la Corée, précisant même qu'il aurait souhaité aller en Corée du Nord pour soulager les souffrances des Nord-Coréens. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
En France, Neja débarque dans les cinémas aujourd'hui.
Neja, c'est le héros d'un film d'animation chinois. Le deuxième volet de cette série a déjà conquis le monde. Ce film chinois est le plus rentable de tous les temps, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes. Il détrône ainsi Vice-versa et La Reine des Neiges. Il s'impose aussi comme le premier long-métrage non-hollywoodien à entrer dans le top 10 des plus gros succès, juste derrière Titanic. Sophie Torlotin.
Vêtu de rouge, les yeux cernés de noir, Neja est un enfant démon maîtrisant le feu. Librement inspiré de L'Investiture des dieux, un classique littéraire chinois du XVIe siècle, ce film le montre affrontant des dragons des mers orientales pour sauver son village. Utilisant, en les modernisant, des références à la mythologie chinoise, s'appuyant sur des effets visuels puissants et des personnages attachants, Neja 2 a conquis les spectateurs chinois dès sa sortie fin janvier pour les vacances du Nouvel An. Ce film, qui n'a coûté que 80 millions de dollars, en a rapporté près de 2 milliards, dont la majorité en Chine même, un record absolu. C'est également la première production chinoise à intégrer le top 10 des plus gros succès du box-office mondial. Sorti avant le début de la guerre commerciale américano-chinoise, Neja 2 est un motif de fierté nationale. La presse étatique chinoise ne s'y est pas trompée en louant ce film qui prouve que son industrie cinématographique est capable de rivaliser, voire de contrer l'hégémonie culturelle américaine.
Et c'est ainsi que se termine le journal. À tout à l'heure, Karine Bellicha. Il est 15h10 presque ici à Paris.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et nous sommes sur le continent américain, aux États-Unis pour commencer, où les Haïtiens vivent dans la peur permanente, notamment dans la ville de Springfield, caricaturée de manière mensongère et haineuse par Donald Trump pendant la campagne. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président américain a fait plus, il a annulé plusieurs statuts de protection des réfugiés. Le TPS, le statut de protection temporaire, dont plus de 500 000 Haïtiens peuvent bénéficier, il arrivera à son terme au mois d'août, bien plus tôt que prévu. Et puis c'est toujours l'incertitude pour le statut humanitarian parole. Donald Trump veut y mettre un terme dès la fin du mois, même si pour l'instant, la justice a bloqué la mesure temporairement. Notre correspondant Edward May a parlé aux Haïtiens de Springfield qui craignent tous aujourd'hui d'être expulsés des États-Unis.
Les commandes récupérées, les clients vont et viennent dans le restaurant haïtien Au Bon Goût. Kate Lee est la propriétaire. 6 ans qu'elle vit à Springfield, la quadragénaire redoute l'expiration de son statut de protection temporaire.
Everybody wait.
Tout le monde attend. J'avais un commerce avant, en Haïti. Ma mère était la manager et contrôlait l'entreprise. 3 personnes sont venues en moto, lui ont demandé l'argent et ont tiré sur ma mère. Et j'ai perdu ma mère dans mon commerce. Ils ont brûlé mon commerce, ma maison. J'ai tout perdu.
Un des clients, la 50aine, qui a demandé l'asile politique et bénéficie aussi du statut de protection temporaire, raconte l'angoisse pour sa communauté d'être arrêté par les autorités de l'immigration, dite ICE.
Tous les Haïtiens sont inquiets, tous les Haïtiens, parce qu'à tout moment, des policiers de l'immigration peuvent venir les trouver, même au travail. On nous a annoncé que les agents de l'immigration peuvent nous arrêter à tout moment, à notre travail ou dans un parking.
Dans le centre communautaire haïtien, quelques employés travaillent sur leurs ordinateurs, des dossiers à côté. L'association veille à aider les immigrés, que ce soit pour les démarches administratives ou autres difficultés. Rose Tamar Joseph est la cofondatrice et directrice des opérations. Elle ne comprend pas la décision de révoquer le statut de protection temporaire, le TPS, qui avait été pourtant prolongé par Joe Biden jusqu'en février 2026 et qui prendra désormais fin en août, même s'il est possible que la justice annule cette mesure.
Le 3 août, si rien n'est changé, on a des milliers et des milliers d'Haïtiens qui seront ici aux États-Unis sans statut légal. Donc, ils ne pourront pas travailler, les enfants ne pourront pas aller à l'école. Tout sera quasiment révoqué. Leur permis de travailler, leur numéro de social sécurité sera révoqué.
Pour l'heure, il n'y a eu aucune arrestation à Springfield, où la communauté haïtienne est estimée entre 15 et 20 000 personnes, dans une ville de plus de 55 000 habitants. Mais depuis la campagne présidentielle, un tiers des Haïtiens aurait quitté la ville, estime le pasteur Carl Ruby de la Central Christian Church, qui, comme de nombreux autres Américains ici, cherche à venir en aide à cette communauté malgré la déflagration provoquée par Donald Trump.
Dès qu'il a amplifié les fausses accusations d'Haïtiens qui mangeaient des chiens et des chats, notre ville a tout simplement explosé. Nous avons eu des groupes de suprémacistes blancs qui sont venus. Je pense qu'on a eu 30 alertes à la bombe et les Haïtiens ont commencé à partir car le président continue de parler d'eux. Et on craint d'être utilisé comme un exemple.
Le pasteur insiste, l'immigration haïtienne à Springfield est la meilleure chose qui soit arrivée à la ville depuis des décennies, relançant l'économie d'une région fortement touchée par la désindustrialisation. Edward May, Springfield dans l'Ohio, RFI.
L'inquiétude des Haïtiens des États-Unis et le sort de ceux qui sont installés en République dominicaine est de plus en plus difficile, les expulsions de plus en plus nombreuses. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, le GAR, a recensé plus de 45 000 retours vers Haïti pour le seul mois de mars, dont près de 9 600 refoulements. Ces chiffres sont à lire dans le journal Le Nouvelliste aujourd'hui, qui donne aussi des détails sur la vie des Haïtiens de l'autre côté de la frontière. L'impossibilité de se faire soigner dans un centre hospitalier sans présenter un document d'identité, une preuve de résidence. C'est ce qu'explique un responsable du GAR qui ajoute « En raison de cette situation, beaucoup de ressortissants haïtiens établis en République dominicaine, même souffrants, ne se rendent plus à l'hôpital pour éviter d'être rapatriés. » Juliette Chénion, vous avez lu la presse du continent et la presse dominicaine, elle aussi, évoque le sort des Haïtiens dans le pays en expliquant que les femmes enceintes sont particulièrement ciblées.
C'est ce qu'explique, oui, le Listín Diario, journal dominicain. Les femmes enceintes haïtiennes sont traquées par les agents de migration dans les hôpitaux de République dominicaine. L'une d'entre elles, sur le point d'accoucher, a ainsi été arrêtée et expulsée, dit le Listín Diario. L'État haïtien doit engager un dialogue avec les autorités dominicaines pour trouver une entente sur les conditions de rapatriement et le respect du droit des migrants haïtiens, exige donc de son côté le GAR dans le Nouvelliste.
Le Nouvelliste qui alerte aussi sur le sort des déplacés internes.
51 000 Haïtiens environ, oui Anne, ont été déplacés en 2 semaines seulement fin mars dans les villes de Mirbalé et de Sodo après les violentes attaques armées du groupe Vivansam. Le nombre nombre de déplacés internes ne cesse d'augmenter et les sites qu'ils occupent actuellement n'offrent aucun cadre de vie décent à ses occupants. Entre insalubrité et promiscuité, note le Nouvelliste, qui cite un rapport de l'Office de la protection du citoyen.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les Canadiens voteront lundi pour désigner le successeur de l'actuel Premier ministre, Mac Carney. Des élections qui font la une des journaux, Juliette.
Oui, déjà 7 300 000 électeurs ont voté par anticipation, lit-on dans Le Devoir. Le journal francophone tient ces chiffres du groupe Élections Canada. On observe un grand désir de voter, résume la porte-parole de cette organisation non partisane, qui prévoit déjà d'ajuster l'organisation du vote lundi pour éviter les files d'attente.
Et comme souvent lors des élections au Canada, le Québec concentre l'attention des candidats.
La province francophone s'annonce comme un champ de bataille clé pouvant avoir une influence significative sur le scrutin, écrit le Globe and Mail. Le candidat et actuel Premier ministre Mac Carney du Parti libéral a donc passé sa journée hier au Québec, raconte le Globe and Mail, au programme Petit déjeuner avec le maire de la ville de Québec, passage par un fast-food spécialiste de la poutine et visite d'une usine de pièces de sous-marin.
Mac Carney, favori des sondages, il a incité sur place ses électeurs à ne pas voter pour le parti indépendantiste québécois.
Oui, pour Mac Carney, le Québec a besoin de représentants au gouvernement pour influencer les décisions importantes. Les sociodémocrates indépendantistes du Bloc québécois ne seraient donc qu'un mauvais choix, explique le Globe and Mail face aux discussions économiques et sur la souveraineté canadienne à venir avec Donald Trump.
Et le Bloc québécois est en difficulté dans sa province.
Oui, le candidat Yves-François Blanchet a beau dire qu'il est le seul à pouvoir défendre les valeurs du Québec, le parti mène une campagne sur la défensive, analyse un politologue toujours dans le Globe and Mail, car un effet Trump pourrait avantager les libéraux. Le journal de Montréal note tout de même un sursaut du Bloc québécois après avoir peiné à s'adapter dans une campagne conditionnée par la tempête Trump et une montée sans précédent de patriotisme à travers le pays. Le candidat bloquiste s'est même dit prêt à collaborer avec un futur gouvernement mené par Mac Carney, dont il a d'ailleurs obtenu le numéro de téléphone. Le journal de Montréal se demande donc si cette alliance toute circonstancielle entre les deux hommes réussira à ramener au bercail les électeurs bloquistes perdus. La réponse, lundi soir prochain, conclut le journal québécois.
Ce sont donc les derniers jours de campagne électorale et si Mac Carney est donné favori, c'est notamment parce qu'il est jugé le plus à même de tenir tête à Donald Trump, en particulier dans le bras de fer commercial sur la délicate question des droits de douane entre les deux pays. Notre envoyée spéciale, Marine de la Moissonnière, à Windsor, la capitale de l'automobile au Canada, juste en face de Détroit, a rencontré sur place un travailleur transfrontalier.
Kyle Lennard nous reçoit sous le porche de sa maison. À l'intérieur, son fils de 5 ans dort. C'est pour que sa femme, originaire des Philippines, obtienne la citoyenneté canadienne que toute la famille s'est installée à Windsor. Mais cet ingénieur électrique pourrait tout aussi bien vivre aux États-Unis, où il a passé de nombreuses années et où il travaille.
Je montre mon passeport tous les jours, mais je n'ai pas vraiment l'impression de changer de pays. Enfin, peut-être un peu plus ces derniers temps. Je dirais qu'il y a un fossé culturel qui se creuse.
Kyle Lennard a remarqué un changement d'attitude côté canadien surtout.
Pour vous donner un exemple, on avait un enterrement de vie de garçon prévu et on voulait aller dans un endroit chaud. On devait donc aller en Arizona, mais à cause des taxes douanières, mes amis m'ont dit « Non, on ne veut plus aller aux États-Unis, on ne veut plus les soutenir. » On est donc allé au Canada, à Hamilton.
Au travail aussi, la guerre commerciale est au cœur de toutes les discussions.
Il y a des gens de tous bords au boulot, donc ça me permet d'entendre les arguments de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre.
Même s'il s'efforce de ne pas prendre parti entre les deux pays chers à son cœur, Kyle Lennard se dit très inquiet pour l'avenir de Windsor. Marine de la Moissonnière, Windsor RFI.
RFI Midi, Anne Contner.
La suite de votre revue de presse, Juliette Chénion. Aux États-Unis, sur la côte est, le New Jersey fait face à des feux de forêt importants.
Cela se passe dans le sud du New Jersey, oui, dans l'une des plus grandes zones protégées de la côte est. Le New York Times publie des vidéos prises du ciel. On y voit les flammes oranges de plusieurs mètres de haut dévorer une vaste pinède sous une épaisse fumée grise. Le feu a débuté dans une zone anormalement sèche cette année, précise le journal new-yorkais.
Le bilan, Juliette, s'élève à plus de 3400 hectares en feu et 3000 habitants évacués hier.
Oui, même si certains habitants ont déjà pu rentrer chez eux, aucune victime n'est à déplorer d'après le média local NJ.com et toutes les routes n'ont pas encore rouvert ce matin. Hier soir, le feu était contenu à 10%.
On reste aux États-Unis, où après de longues procédures pour désigner les jurés, un nouveau procès d'Harvey Weinstein, accusé de multiples viols et d'agressions sexuelles, doit débuter aujourd'hui.
Ce procès sera un test de l'héritage du mouvement MeToo, écrit le New York Times. Les procureurs et les avocats de la défense doivent faire leur déclaration d'ouverture aujourd'hui et les débats devraient durer 6 semaines. À l'inverse du premier procès, il y a 5 ans, le jury est cette fois composé de 5 hommes et 7 femmes.
En 2020, l'ancien producteur de cinéma avait été condamné pour 2 crimes sexuels avant de recevoir l'année dernière une décision favorable de la Cour d'appel de New York.
Oui, et d'après le New York Times, Anne, les avocats d'Harvey Weinstein font le pari d'un essoufflement du mouvement MeToo. Les gens n'ont plus la même mentalité qu'il y a 5 ans, veut croire l'un de ses conseils. Le New York Times rappelle également que lors du premier procès, les avocats de la défense avaient tenté de discréditer les plaignantes, mails et écrits à l'appui. Mais l'équipe de procureurs compte, elle, faire venir à la barre des experts pouvant expliquer comment une victime peut se retrouver à garder contact avec son agresseur sans le dénoncer à la police.
Juliette Chénion, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI, la radio del mundo.
Notre dossier du jour nous emmène au Mexique. Gros plan sur un programme social et environnemental. Il est destiné aux agriculteurs les plus pauvres. L'État leur fournit une aide financière et en échange, ils s'engagent à replanter des arbres. La présidente envisage même de l'étendre maintenant ailleurs dans le monde. Reportage de Marine Lebeg à Mexico.
Chapeau de cow-boy enfoncé sur la tête, Alejandro Martinez, 48 ans, déambule fièrement entre les arbres de la parcelle qui jouxte sa maison.
J'ai des pêches, des pommes, des avocats, des citrons.
À chacun de ses pas, la poussière de terre sèche se soulève. Cette zone de l'état d'Hidalgo, à quelques heures au nord de Mexico City, est connue pour être particulièrement sèche. Alejandro Martinez s'approche d'un cactus et avec un gant décroche un fruit rose de la taille d'un œuf.
On cultive aussi la figue de Barbarie. On en fait du nectar, des jus, des sauces, de la confiture. Et tout ça, on le fabrique ici même et on le vend dans notre boutique.
Alejandro Martinez est originaire du coin. Ce terrain, il l'a hérité de son père. Mais jusqu'en 2020, année où le programme Sembrando Vida est arrivé dans la région, il ne s'en était jamais occupé.
Aquí en la parcela no había nada. Todo estaba muy feo, muy sucio.
Ici, sur ce terrain, il n'y avait rien. Il était sale, à l'abandon. Moi, je partais régulièrement aux États-Unis pour chercher du travail. J'y restais 1 an, 2 ans, voire 3. Et je rentrais. Maintenant, je n'y vais plus. Depuis que le programme existe, je reste ici, je cultive mes plantes. Et je compte bien continuer comme ça.
Me he mantenido aquí, he estado plantando, he estado cultivando mis plantas. Y pues todo aquí seguimos.
Ça fait partie des effets non programmés, mais espérés.
Margarita Hernandez a coordonné le programme Sembrando Vida pendant les 6 ans de mandat du précédent gouvernement, de 2018 à 2024.
On a eu plusieurs retours de bénéficiaires qui nous disent « Avant, mon fils migrait chaque année pour travailler, mais maintenant, comme il voit que nous produisons, il reste et il nous aide. » Le programme bénéficie à des communautés locales. S'ils acceptent de fournir un terrain de 2,5 hectares pour y mettre en place un système agroforestier, on leur donne une formation, des revenus et des outils pour qu'ils puissent renforcer leur capacité dans la production d'aliments et puissent percevoir des bénéfices à court, moyen et long terme.
Comme les 500 000 autres paysans mexicains qui en bénéficient, Alejandro Martinez doit donner chaque mois la preuve qu'il a bien planté 2500 arbres fruitiers et à bois depuis le début du programme. En échange, il reçoit 6000 pesos, l'équivalent de 270 euros. Grâce à cette aide financière, il a pu installer un système d'irrigation, très précieux dans cette région aride.
J'ai construit un capteur qui récupère toute l'eau de pluie et la stocke. Je l'utilise pour arroser mes plantations. J'ai dû économiser 6 mois sans dépenser un peso pour pouvoir le faire.
De quoi assurer sa production de fruits et son activité sur le long terme, sans craindre les années de sécheresse. Seule ombre au tableau, le programme n'est pas éternel.
On le sait et on en est conscient. D'ailleurs, on nous avait dit que le programme devait s'arrêter cette année. Mais la présidente, Claudia Sheinbaum, nous a donné une nouvelle opportunité et nous a offert 2 années de plus. Espérons que ça dure encore un peu plus. Et sinon, nous devrons nous débrouiller avec ce qu'on produit pour manger. Il faudra que j'essaie de vendre les fruits et d'en sortir un salaire.
L'État mexicain consacrerait l'équivalent de 1,8 milliard d'euros par an à Sembrando Vida. Claudia Sheinbaum a proposé en novembre dernier aux pays du G20 de prendre 1% de leur budget consacré à l'armement et de le réinvestir dans des programmes sociaux et environnementaux comme celui-ci. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
RFI Midi.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer françaises. En Martinique, grosse déception pour les usagers des navettes maritimes. Ils exigeaient l'instauration d'un service minimum entre les Trois-Îlets et Fort-de-France.
Et leur requête a été rejetée hier par la justice, alors que le service est interrompu depuis le 28 mars dernier par un mouvement social. Une décision du tribunal administratif de Fort-de-France que n'arrive pas à comprendre l'avocate de l'association des usagers, Maître Aurélie Dell.
Ils ont été extrêmement surpris par le fait qu'on n'a pas été audiencés, qu'ils n'ont pas pu exprimer leur doléance devant le juge. Et c'est vrai que pour le travail qui a été derrière, les nombreuses attestations qu'on a reçues des usagers, des résidents des Trois-Îlets, c'était une vraie déception, et pour nous aussi, avocats. Le juge a bien statué sur le fond, puisqu'il a statué sur les moyens qu'on invoquait, à savoir l'atteinte à la liberté d'aller et venir et également au droit de vivre dans un environnement sain, puisqu'on l'a vu avec les embouteillages monstrueux qui se produisent, on a des émissions de CO2 et d'ailleurs un stress aussi généré, donc les routes deviennent aussi accidentogènes et puis c'est pas du tout agréable pour les usagers. Et donc le juge a statué sur ces deux moyens, indiquant qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et illégale.
Direction la Guadeloupe maintenant, avec là aussi sans doute un sentiment d'impuissance face au retour des sargasses. Les paquets d'algues brunes, ou plutôt marrons d'ailleurs, se rapprochent inexorablement. Franck Aristide.
La donne ne change pas et les dernières images satellites du week-end pascal font apparaître une forte présence de sargasses autour de nos îles. Pour l'heure, le flux est très faiblement orienté au nord et devrait se rediriger au sud-est dans le courant de la journée de jeudi. L'importante densité d'algues brunes détectées dans le sud de la Grande Terre et celui de Marie-Galante, ainsi qu'aux abords de la côte au vent de la Basse-Terre, place ces littoraux en première ligne. Risque très fort d'échouement pour le sud Basse-Terre et fort pour les côtes exposées de la Grande Terre et les Saintes, avec un indice de confiance de 3 sur 5. La Désirade et Marie-Galante pourraient bénéficier, elles, d'un léger répit, même si des arrivages sont à craindre du côté de Saint-Louis notamment. Enfin, à moyen terme, la tendance n'évolue guère. Les arrivages vont aller en augmentant en fréquence et en quantité dans les semaines et les mois à venir. 2025 semble se confirmer comme une année brune.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va se quitter avec de la musique et le groupe Black Pumas et un morceau qui a déjà quelques années, Colors.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for by the mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Walls of blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' yeah. It sound like ooh, 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 yeah.
Et c'est avec les Black Pumas que se termine RFI Midi. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Tout de suite, c'est De Vive Voix sur notre antenne. Très bonne journée à tous.